Bibine, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse. Aujourd'hui, je suis allée voir un personnage qui s'appelle Gérard Duchemann.
Mais ça, c'était avant. Avant qu'on me retire mes cordes vocales. C'est à cet endroit qu'un malin petit crabe était en train de faire son lit.
T'as une voix un peu de canard, si je peux me permettre.
J'ai une voix de canard, effectivement. Et je ne chante plus. C'est pour ça que je vais raconter toutes mes histoires avec cette voix de canard qui, j'espère, ne vous troublera pas trop.
Aujourd'hui, je suis allée voir un personnage qui s'appelle Gérard Duchemann. Comment se passe ton enfance, Gérard ?
Tout se passe gentiment, calmement. Une scolarité sans histoire et une famille aimante pour m'entourer de toute leur protection contre l'ennemi extérieur qui peut surgir à tout moment. Et ce fut le rock'n'roll. You ain't nothing but a hound dog.
Et là, c'est toi qui chantes ?
Oui, c'est moi, quand j'étais petit. C'était avec Pierrot, Pierre Chérez, mon alter ego, avec qui je découvre les premiers accords de guitare, achetés par mon grand-père, contre l'avis défavorable de toute la famille, qui sent bien que tout ça va m'embarquer sur un chemin semé d'embûches, qui m'éloigne définitivement de mes chères études. Avec Pierrot, à 3 jours près, on a 15 ans chacun, et on épate tout le monde par notre enthousiasme à chanter et jouer cette musique venue des États-Unis, puis d'Angleterre. Jusqu'à cette annonce du Club Med de Rock & Folk, qui recherche les groupes à auditionner pour animer ces villages paradisiaques sous les cocotiers.
Vous n'êtes partis que tous les deux avec Pierrot ?
Non, depuis peu, on a trouvé un batteur, un vrai bassiste et même un jeune pianiste qui possède un orgue. Pierrot fait les merveilles à la guitare, et moi je chante les Rolling Stones, Otis Redding et le rock anglais américain. D'ailleurs, pas facile à trouver un batteur pour des gamins comme nous.
Ah bon, pourquoi ?
Parce qu'un batteur doit avoir une voiture pour transporter sa batterie, donc le permis de conduire qu'on ne passe qu'à 18 ans, et la voiture qui va avec. Pierrot et moi, on ne fréquente pas les jeunes adultes. Tout ça explique la difficulté pour nous d'en trouver un amateur, mais on y parvient quand même. Avec cette formation, on joue dans les petits clubs de Paris et sa banlieue le week-end, en continuant nos études, mais en changeant souvent d'établissement scolaire pour manque d'assiduité dans les cours. Un jour, je tombe sur une annonce dans Rock & Folk, recherchant un groupe de musiciens pour la saison d'été. On passe l'audition avec succès, et on signe pour partir 5 mois en Turquie, faire danser les gentils membres du Club Med, comme on les appelle. On est à l'été 69, et ça va chauffer dans les Bermudas.
Cette période a dû être sympa et bénéfique pour toi, non ?
Oui, on en revient riche d'expériences nouvelles, en tout genre, mais peu d'argent dans nos poches, car on a beaucoup investi sur place, en alcool et bière au bar et à la boîte de nuit, mais on a beaucoup appris quand même. En musique d'abord, car toutes les semaines on reçoit disques et partitions de ce qu'on aime bien, mais aussi des chansons à succès que l'on doit jouer plusieurs fois dans la soirée et que le DJ de la discothèque doit passer également pour bien conditionner les vacanciers à acheter le disque en rentrant. On est en 69 et on écoute ça.
Hey Jude, don't make it bad. take a sad song and make it better.
Et puis ça aussi.
Get up in the morning, sleeping for bread, sir, so that every mouth can be fed.
Et qui en profite?
C'est tout bénef pour les éditeurs et la SACEM qui ont dû passer ce deal très lucratif avec le Club Med. En effet, si l'on considère tous les gentils membres se procurant le 45 tours en rentrant pour se rappeler les vacances en multipliant par le nombre de villages, on arrive à des ventes très lucratives. On a aussi appris à passer des nuits blanches à boire et à fumer avec de jolies femmes décomplexées, prêtes à tout pour se retrouver au petit matin dans un lit de musicien. Mais tout cela n'a qu'un temps.
Alors que faites-vous en rentrant?
De retour à Paris, on se retrouve au même point qu'avant de partir, car on ne veut pas re-signer avec le club et continuer avec le groupe pour une saison d'hiver, surtout qu'on a eu quelques difficultés à bien s'entendre sur la durée, ce qui aboutit en rendant notre séparation. Ne reste que Pierrot, le fidèle ami d'enfance devenu très bon guitariste, et moi. Il nous faut chercher du travail rapidement, car nos économies trouvent très vite leurs limites.
Et vous restez sur Paris avec Pierrot?
Non, c'est vers l'ouest que nos antennes se tournent. On a entendu dire qu'un chef d'orchestre recrute des musiciens sur Paris pour les faire venir à Nantes et les imposer sur le marché des groupes de bal. Mais pour nous, parisiens blasés et branchés, le mot bal évoque plutôt la campagne. L'accordéon et les danses bretonnes. Alors, nous voilà partis confiants et sûrs de nous pour cette nouvelle expérience qui nous éloigne de la capitale, mais nous garantit le bon salaire à jouer de la musique et à ne travailler que le week-end.
Comment avez-vous été accueilli par les musiciens locaux?
Arrivé sur place, on s'aperçoit que les formations locales concurrentes se nourrissent de Beatles, Chicago, Crimson, et jouent tout ça dans le texte et sans bavure. Mais nous, on est prêts à relever le défi en répétant d'arrache-pied pendant un mois pour présenter un répertoire d'au moins 5 heures, puisque c'est la norme pour prétendre à assurer des soirées aussi longues, parfois même matinées et soirées. Dans ces cas-là, on commence à 15h jusqu'à 20h, et après la pause repas, on reprend jusqu'à 2h du mat. Parfois, il nous arrive même de changer d'endroit entre la matinée et la soirée. Dans ces cas-là, on remplace la pause repas par une séquence démontage, chargement du camion et remontage à quelques dizaines de kilomètres plus loin pour rejouer encore 5h.
Et cette vie-là te convient ?
Oui, je m'accommode bien de ma nouvelle vie nantaise. Quant à Pierrot, au bout de quelques mois, il retourne à Paris, où il va démarrer une longue et belle carrière de musicien, apprécié et reconnu de tous. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Il faut dire que dans ces années 70, qui ne connaissent pas le chômage, on peut quitter un orchestre pour n'importe quelle raison. Incompatibilité d'humeur, refus d'une augmentation de salaire, chef d'orchestre tyrannique, ayant trouvé un nouveau présentant de meilleurs avantages dès la semaine suivante. Un jour débarque un batteur de Concarneau, Pépé on l'appelle, pour remplacer le nôtre, malade, et on se rend vite compte de la personnalité du bonhomme. Une grande gueule, un bon sens de l'humour, et quand il s'installe derrière sa batterie, on ne peut que le regarder tant il joue puissamment et avec une gestuelle tout à lui. J'ignore par quelle alchimie un sentiment d'amitié sincère et durable s'impose entre nous, mais au bout de quelques semaines, Pépé tient à m'amener chez lui pour me présenter à sa famille et à ses amis musiciens. Une grosse siesta est organisée sur place, et ça débarque de toute la Bretagne pour 3 jours et 3 nuits de libations et de pure déconnade. On ne fait pas les choses à moitié dans le Finistère. À la fin de la fête, me voilà totalement intégré à toute la bande. J'irai même jusqu'à quitter Nantes et louer une maison dans la lande bretonne pour continuer à célébrer ses amitiés nouvelles et me rapprocher d'elle.
Tu continues toujours les balles ?
Toujours les balles, oui. Mais avec Pépé, on a commencé à composer quelques musiques autour d'un livre de contes sataniques de Claude Seignol que je viens de lire et qui m'a beaucoup marqué. On en parle à Niais, qui en parle à Blette, deux musiciens brestois rencontrés il y a peu. Ainsi se forme l'embryon de Ripaille. Je rappelle que Niais, c'est Patrick Audouin, en fait. Il manque juste un guitariste, et ce sera Patrick Droguet, un ami nantais de la première heure, avec qui j'ai écumé les balles. On commence à répéter chez moi les différents morceaux que chacun amène, et qui bout à bout formeront la trame de la vieille que l'on brûla, qu'on enregistre en novembre 77, au studio Frémontel en Normandie, avec Hugues de Courson comme producteur.
La vieille que l'on brûla pour des histoires de sorcières hier n'est plus qu'un tas de cendres qu'un vent froid de décembre disperse dans les rues du village endormi.
De cet album, nous décidons de monter un spectacle hors norme avec des marionnettes à taille humaine, tout en lumière noire et en décor sophistiqué, mais hormis au Palais des Arts à Brest avant qu'il ne brûle et qui fut notre premier concert, nous n'avons pas continué dans cette direction à cause des contraintes techniques difficiles à respecter, le transport du matériel et 3 personnes en plus à payer.
Est-ce que le public était au rendez-vous à ce moment-là?
Avec la formule de base à 5 musiciens, on arrive à faire quelques concerts et festivals. Le disque est bien accueilli, deviendra culte et même très recherché, notamment au Japon. En 1980, nous rencontrons un nouveau producteur qui nous fait suffisamment confiance pour envisager un autre album que nous enregistrons au Château d'Hérouville, après celui de Manu Lanuel, chanteur et poète brestois très apprécié.
C'est quoi le Château d'Hérouville?
C'est un studio d'enregistrement du côté de Pontoise, aménagé dans un château du 18e par Michel Magne, grand compositeur de musique de film, pour y vivre et enregistrer ses œuvres. Équipé d'un matériel de pointe, le château, doté d'une piscine extérieure, de deux terrains de tennis et d'une salle de jeu, accueille ensuite beaucoup de stars internationales et aussi une clientèle française qui veut faire un disque à la campagne. C'est à partir de ce moment-là que je développe mes connaissances culinaires acquises avec mon père, cuisinier de métier, en préparant tous les repas pendant le disque de Manu et même celui de Ripaille. C'est peut-être pour ça que j'apprécie moins cet album car j'y chante assez peu, étant plus souvent en cuisine qu'au studio. Je n'ai pas non plus participé beaucoup au texte, mais on est tous tombés d'accord sur le titre « Ah, faut profiter tant qu'on peut ». Quant au mystérieux producteur, mis à part le chèque d'un compte qu'il a fait au nom d'une société fictive pour nous permettre d'enregistrer, nous n'avons plus jamais eu de ses nouvelles, et conséquence logique, cet album n'est jamais sorti, à part trois titres qui ont été ajoutés en bonus au CD de La Vieille que l'on brûla, réédité en 1995. Avec un nouveau batteur, Michel Santangeli, car Pépé, je le rappelle, l'un des instigateurs de notre groupe musical avec moi, nous lâche avant le deuxième album pour raison de santé. Michel fait déjà partie de notre bande depuis longtemps, puisqu'il a montré les bases de la batterie à Pépé, et Blette, notre bassiste, joue tous les deux avec Jacques et Gilles. C'est grâce à cela que j'ai des nouvelles indirectement de mon vieil ami Pierrot, qu'on appelle Blaireau parfois, et que je n'ai pas revu depuis l'épopée nantaise, puisque lui aussi gratte sur les gens.
Et vous remercions. Ça fait une soirée magnifique que tout le monde a très bien dansé. Ce soir à la batterie, Michel Santangeli, Santangeli. À la guitare, Monsieur Blaireau, moi, Monsieur Blaireau, un grand. Et au piano, le dernier des ringards, celui qui se plante toujours comme un vrai salaud. Oh, 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 oh. Et je ne saurais vous quitter sans citer celui qui, à la basse, a fait des miracles. Ah, ah, ah. Il s'agit de Monsieur Blette, venu spécialement de Brest, la da da tantin, pour nous interpréter son morceau favori. C'est dur aujourd'hui, peut-être.
Et comment ça se passe avec le public ?
Malgré une nette évolution dans des morceaux plus péchus, on a du mal à fédérer un public. Alors, répaille en stand-by, retournant à la case baluche. C'est encore plus dur quand on a goûté autre chose.
Sur les paquets de camel, il y a d'abord un chameau avec quelques palmiers de la Reynolds Tobacco. On peut y voir aussi des maisons alignées que le soleil blanchit. Je vais vous raconter. Dans ce paradis, derrière sa fenêtre noire, se cache un vieil ami qui me raconte des histoires. J'allume ma cigarette, il plonge dans ma mémoire, m'abreuve de ses sornettes que je suis bien forcé de croire. À mes angoisses, où il me fout à poil en se voilant la face. Mais quand tout est fini, la fumée dissipée, il retourne chez lui et moi je vide le cendrier.
Vous avez entendu le premier épisode de la saga Gégé Duchemann, chanteur, musicien et ancien cuisinier du spectacle et de l'événementiel. Vous pouvez retrouver ces épisodes sur transistor.bzh.